Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
La situation sanitaire continue de se dégrader avec un taux d'incidence qui s'envole pour atteindre 788 pour 100 000 dans le département du Rhône. Explication dans le courant de cette édition. Le directeur général de l'Agence régionale de santé avait annoncé la déprogrammation totale des interventions non urgentes dans tous les établissements publics et privés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des transferts en direction d'établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine et des Pays de Loire ont été engagés. Sud Santé et Sociaux de l'hôpital Édouard Herriot a déposé un préavis de grève pour la période jusqu'au 8 novembre avec plusieurs revendications à la clé en cette période de pandémie. On se souvient de ce tragique accident du 20 juillet sur l'autoroute A7 dans la Drôme. La mort de 5 enfants de 3 à 14 ans. Une des mères de famille est décédée à son tour. Le retour à Lyon pour Camille Gainsbourger à l'issue de 15 jours en mode blablacar et vélo. Un Tour de France engagé par le Globetrotter de 78 ans pour faire découvrir les vélos en libre-service. Dernier carnet de route dans cette édition. Alors que l'un des deux opérateurs de trottinettes électriques à Lyon, l'Almentir, lance pour la première fois un abonnement illimité. La culture continue tant bien que mal en cette période difficile, notamment du côté de l'espace Gerson. Gaël Bossier a rencontré le voisin.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La situation sanitaire continue de se dégrader. Le nombre de décès en 24 heures est en forte augmentation avec 257 morts supplémentaires par rapport à dimanche. Au plan national, les effets du couvre-feu ne se font toujours pas sentir dans la métropole. Le taux d'incidence continue à s'envoler pour atteindre 788 pour 100 000 pour la semaine glissante du 17 au 23 octobre. Dans le Rhône, le taux d'incidence atteint 783 pour 100 000 et le taux de positivité plus de 24% pour la même période. 171 nouvelles admissions à l'hôpital depuis dimanche, 1165 patients hospitalisés et surtout 27 admissions en réanimation, un chiffre qui n'avait plus été vu depuis le printemps. 179 patients étaient hospitalisés dans les services du Rhône ce lundi, soit le même nombre que le 25 avril. Le chiffre de décès est également élevé avec 13 décès survenus en 24 heures, ce qui porte à 882 le nombre de patients décédés du Covid-19 dans le département depuis le 1er mars. Le directeur général de l'Agence régionale de santé, Jean-Yves Gral, a annoncé la déprogrammation totale des interventions non urgentes dans tous les établissements publics et privés de la région afin de parer à une éventuelle saturation des hôpitaux. 7 nouveaux transferts de patients ont été réalisés hier afin de soulager les hôpitaux de la région. 8 nouveaux sont prévus également d'ici mercredi. Des transferts en direction d'établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine et des Pays de Loire. C'est la compagnie Oyonnax basée à Bron et spécialisée dans les vols médicaux qui a assuré ces transferts. Sud Santé Sociaux de l'hôpital Édouard Herriot a déposé un préavis de grève jusqu'au 8 novembre. Plusieurs revendications. Le syndicat demande en premier lieu du personnel en nombre suffisant et formé aux différentes spécialités, réanimation, bloc, urgence, chirurgie, pour remplacer les nombreux arrêts maladie. Également du matériel de protection individuelle en nombre suffisant, comme les masques, les surblouses ou encore les gants. Enfin, le respect des congés annuels de fin d'année et 300 euros net pour tous les personnels hospitaliers. Les syndicats alertent sur le manque de personnel pour affronter la deuxième vague de Covid-19. La direction des HCL assure pourtant ne pas observer d'amplification des départs du fait de la crise, ni d'augmentation de l'absentéisme. Des appels aux volontaires, aux retraités et à l'intérim ont pourtant été lancés, ainsi qu'une campagne de recrutement.
Lyon demain, la radio sans pub.
On se souvient de ce tragique accident le 20 juillet dernier sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Un monospace qui transportait 9 membres d'une même famille de Vénissieux avait pris feu avant d'effectuer une sortie de route, provoquant la mort de 5 enfants de 3 à 14 ans. 4 blessés, 3 adultes et un enfant de 7 ans avaient alors été hospitalisés dans un état très grave à Lyon. L'une des mamans vient de décéder, ce qui porte à 6 le nombre de victimes. Un passant qui ne manque pas de courage, il est 15h hier après-midi lorsqu'un homme se jette à l'eau après avoir aperçu une personne sauter dans le Rhône à hauteur du pont de la Guillotière. Le témoin de la scène s'est aussitôt précipité dans le fleuve, bientôt rejoint par un pompier. Ce dernier a réussi à récupérer les deux personnes saines et sauves avec le renfort des sauveteurs du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Des pompiers équipés, eux, de combinaisons néoprènes. La première personne qui avait plongé a été récupérée en état d'hypothermie et a été transportée à l'hôpital. Le témoin a pu regagner son domicile en mode une journée presque comme les autres.
Lyon demain, idée en partage.
Un tour de France plus tard. Retour à Lyon pour Camille Ginsburger à l'issue de 15 jours en mode blablacar et vélo. À 78 ans, le globe-trotteur de Soussy-en-Jarret est parti de la capitale des Gaules pour traverser des villes comme Brive, Bordeaux, Nantes, Amiens ou encore Colmar à la découverte des vélos en libre-service dans chacune des villes traversées. Dernier carnet de route ce matin dans ce quart d'heure lyonnais avec un globe-trotteur à l'agenda bien rempli ces deux dernières semaines. Camille Ginsburger.
Je vais vous donner les villes traversées qui sont Brive-la-Gaillarde, Bordeaux, Saintes-La Rochelle, La Rochelle-Nantes, Nantes-Quimper, Saint-Brieuc, puis Amiens, puis Lille, puis Dunkerque, puis Reims, hier au soir et avant-hier Colmar, et retour à Lyon ce matin par la place des Cordeliers et la station Laurent Bonnevet avec le Blablacar qui m'a déposé là.
Et alors quel est votre constat au niveau des services de location ?
La première chose, c'est qu'un système de location quasiment différent par ville, avec des prix relativement voisins. Ce qui fait la différence quand il y a des incidents, c'est le... Est-ce qu'il y a un numéro d'appel sur la borne où vous êtes ? Est-ce que les gens sont capables de solutionner votre problème technique ? Vous ne pouvez pas décrocher votre vélo. Il n'y a plus de papier dans la machine qui distribue le ticket avec le code pour le soulever. Alors là, j'ai trouvé qu'Amiens était très bien, avec ses VLAM, comme la ville d'Amiens. La ville très cohérente que j'ai vue, c'était également Yellow, de l'origine des Yellow jaunes de Michel Crépeau en 76 à La Rochelle. Et la ville qui est très cohérente, où tout est géré par la même structure qui est une filiale de Keolis, c'est Bordeaux. Où aussi bien le bateau, le B-Cube sur la Garonne, que les tramways, que les autobus, que les vélos. Donc il y a une grande cohérence dans les jonctions, ce qui rend très facile pour l'utilisateur les jonctions avec des informations qui fonctionnent bien.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile, tout ce qui est lié à la pandémie ?
Alors plein de choses quand même, puisqu'il y a plein de villes qui ont supprimé leurs services de location vélo libre-service. Exemple Dunkerque, exemple Reims, exemple Colmar. D'autre part, j'ai dormi dans des auberges de jeunesse, donc il n'y a plus de chambres partagées. Donc souvent les auberges de jeunesse, bien que j'ai 78 ans, était complète, y compris à Reims et à Colmar, ce qui m'a permis de découvrir des Airbnb, excusez pour la publicité, mais des lieux de villégiature extrêmement sympathiques, dont à Reims, avec un rooftop qui donnait sur la cathédrale, et des hôtes extrêmement sympathiques et gentils, dont je ne citerai pas les fonctions, mais avec qui j'ai pu partager plein de choses. Un voyage insolite en compagnie d'un lapin, avec un pompier professionnel, qui avait comme activité également la location de cabanes perchées, et également de la chasse aux frelons et aux guêpes. Ça a été mon voyage le plus drôle en tant que voyage avec le lapin, le chihuahua, une seule place à l'avant, mais très sympathique.
Camille Ginsburger, retrouvez ses différents carnets de route sur notre site lyondemain.fr ou directement sur sa page Facebook. L'un des deux opérateurs de trottinettes électriques à Lyon, l'allemand TIR, lance pour la première fois un abonnement illimité. Jusqu'alors, ces sociétés proposaient uniquement un tarif au trajet, 1 euro le déverrouillage et 15 centimes la minute pour TIR, également des passes à la journée ou des abonnement mensuel avec déverrouillage illimité, mais durée d'utilisation restreinte. Cette fois-ci, pour 39 euros par mois, les déverrouillages et les temps de trajet sont illimités chez TIR. Cet abonnement vaut pour toutes les villes où TIR opère. Un abonné lyonnais peut par exemple en profiter à Paris ou à Grenoble, où la société allemande est aussi présente. TIR annonce également une résiliation possible à tout moment, au moins 24 heures avant la date du renouvellement mensuel. Les lignes de TER Lyon-Saint-Etienne et Lyon-Valence connaissent des perturbations jusqu'au 23 février. La SNCF a entamé des travaux de régénération des voies entre Saint-Fons et Saint-Clair-du-Rhône. 29 km de voies vont être remises à neuf pour un investissement de près de 53 millions d'euros. Toutes les informations sur les perturbations sur l'appli SNCF, sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes ou en appelant le 09 69 32 21 41. La culture continue tant bien que mal en cette période difficile. Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté de chez vous et il revient. C'est le voisin. Benoît Turgeman est chaque mardi sur les planches de Gerson. Gaël Bossier l'a rencontré.
Mes sources d'inspiration, elles sont d'abord parlantes, mais je les retrouve chez des comédiens qui sont excentriques. Pierre Richard, Jim Carrey, Robin Williams, ce genre d'artiste qui est loufoque et qui a une grande tendance à s'exprimer avec le corps. Et ça m'a marqué quand j'étais jeune. Un artiste de la scène qui s'appelle Michel Courtemanche, qui m'a bouleversé quand j'étais ado. D'une élasticité et d'un humour fou, hein, un Québécois fantastique. Puis mes grands-parents sur le tard m'ont fait découvrir aussi les muets, les grands burlesques, Chaplin, Keaton, Harold Lloyd.
On retrouve également du cinéma muet les cartons. Est-ce que c'est là aussi une citation au cinéma muet?
Oui, c'est une référence. Alors le spectacle est encore en évolution et ça me permet d'avoir de la souplesse. J'aimerais leur donner une autre forme à ces cartons, qu'il ne reste pas carton noir, mais ça me permet aussi de faire un lien avec justement cet héritage. C'est très utile en fait, je m'aperçois à l'usage de ces cartons d'intertitres qui sont très utiles pour ramener le public vers des situations plus complexes que si je ne parlais pas.
Alors vous êtes très très explicite dans vos gestes, mais aussi il y a un compagnon de scène qui est la musique. Il y a une place extrêmement importante pour la musique. Comment choisissez-vous en fait les titres qui vous accompagnent sur scène?
La musique, c'est un partenaire de très longue date. Mes parents, quand j'étais tout bébé, ils me mettaient de la musique le soir parce que je pleurais énormément. Et ils me mettaient de la musique pour absolument m'apaiser. J'ai gardé cette habitude et puis c'est devenu vraiment une compagne, une deuxième compagne, la musique. Je baigne dedans en permanence et j'y prête un soin très, très attentif parce que c'est elle qui va être une source qui va ouvrir l'imaginaire du public et qui moi aussi va me porter, parce que la musique elle est partout. On dit en France tout commence et tout finit en chanson, et ben c'est vrai, et dans nos vies c'est la musique nous emporte au-delà de tout. C'est une source de souvenirs, d'émotions, de tellement de choses que j'ai envie de partager mes histoires sur des musiques qui sont déjà évocatrices pour le public.
Absolument, ça fonctionne très très bien. Il y a même un passage où quand vous êtes à la plage, moi j'ai pensé à Tati. Est-ce que c'est volontaire? Il y a le petit Bob, il y a la voiture que vous jouez à merveille, et ça me rappelle les vacances de Monsieur Hulot.
L'introduction, il est vrai, est vraiment chargée en souvenirs. Non seulement parce qu'il y a une musique qui n'est pas donc les vacances de Monsieur Hulot, merci, mais qui est d'un autre film de Trafic et que j'adore, parce que j'adore tout ce que fait Tati. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire référence pour ceux qui connaissent et donner un petit côté rétro, l'espace d'un instant. Après, je pars dans mon univers à moi, mais c'est vrai que les deux, trois premières minutes sont très proches de l'univers de Jacques Tati, que j'affectionne énormément.
Un spectacle plein de références, et puis un personnage qui est le voisin. Comment avez-vous inventé ce personnage?
Je ne sais pas si c'est le meilleur ou si c'est le pire de moi-même, ce personnage, si c'est même le pire ou le meilleur de ma famille, parce qu'il y a énormément de références familiales. Je m'aperçois en jouant ce personnage qui a énormément de références familiales qu'il porte. Mais en fait, il est venu parce que moi, j'essaie de raconter des histoires par le mime. J'adore ça. Mes histoires étaient bonnes, mais je peinais à trouver un lien. Et un jour, c'est une costumière, parce que j'avais une contrainte de décor ce jour-là. Elle m'a dit, mais ton costume ne va pas fonctionner, il faut un autre costume. Elle a changé le costume, et changeant le costume, me donnant celui que j'ai maintenant, elle a fait apparaître le personnage que j'ai.
Il y a un côté désuet, peut-être aussi hors du temps, peut-être dans vos vêtements, mais aussi dans l'arsenic, c'est-à-dire la façon de bouger vos bras, etc. Juliette Gréco vient de nous quitter il y a un peu de temps. Elle aussi jouait beaucoup en fait de ses bras. Vous avez des grandes mains en fait, on les voit beaucoup sur scène. C'est très émouvant en fait de vous voir comme ça. Alors je vous compare pas bien sûr à Juliette Gréco, ça serait difficile, mais on sent qu'il y a toute une tradition comme ça autour de ces gestuels qui accompagnent aussi la musique, peut-être la danse. Est-ce que c'est aussi votre formation?
Oui, dans ma formation de mime, il y avait des cours de danse, classique, à l'ancienne d'ailleurs, assez rigoureux. J'ai retrouvé aussi, parce que j'avais Marcel Marceau comme maître, j'étais dans son école. Quand il nous parlait de l'histoire du mime, mais il nous parlait aussi de sa jeunesse. Et lui, qui a fréquenté également les musicals, non seulement les musicals, mais aussi les cafés-concerts. Il a écumé les cafés-concerts, plusieurs soirées où il jouait des numéros dans différents cafés-concerts, comme aujourd'hui les stand-uppers jouent plusieurs fois dans la soirée, 5 minutes. Et voilà, il a joué avec certainement aux côtés de Gréco, des frères Jacques, de Boris Vian, enfin toute cette époque.
J'espère en tout cas que mes auditeurs viendront à Gerson le mardi jusqu'au 29 décembre. Merci beaucoup Benoît Torchman pour Le Voisin. Merci.
Merci beaucoup.
Une interview à retrouver en intégralité sur le site liondemain.fr. En raison du couvre-feu, le spectacle est programmé à 18h30 à l'espace Gerson. Le bar ouvre à 18h. L'espace Gerson est situé 1 place Gerson Lyon, en plein cœur du Vieux-Lyon. Et puis en basket, après avoir raté 5 matchs, l'ASVEL doit reprendre la compétition jeudi face à Žalgiris Kaunas. Notez que le match est avancé de 20h45 à 18h en raison du couvre-feu, avec une jauge de 1000 spectateurs. Le choc contre Monaco, programmé lundi, a pour sa part été reporté. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Restez prudents.